le psaume 95, il est en deux parties. Premier du verset 1 jusqu'à 7 et la suite du verset 8 jusqu'à 11. On n'a pas tellement envie qu'il soit là avec le début. C'est un passage terrible, la deuxième partie. On aimerait qu'il figure pas. Le décor, le contexte, c'est deux révoltes et provocations dans le désert de Sinaï, où le peuple d'Israël n'a pas fait confiance à l'Éternel et a désobéi. Le premier, c'est à Meriba. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils sont en fuite, c'était des esclaves en fuite. Ils sont nombreux, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu l'action de Dieu, de l'Éternel, les derniers jours, les dernières semaines et mois. Et voilà qu'ils arrivent dans un endroit où il n'y a plus d'eau. On regrette déjà l'Égypte. Et Moïse est sur le point d'être lapidé, il y a une révolte, et la foule s'excite. Et l'Éternel ordonne à Moïse de se rendre au rocher du mont Horeb. Et là, il devra frapper le rocher avec son bâton. L'eau jaillit, et de l'eau pure sort de ce rocher. Et Moïse appellera ce lieu Meriba, qui veut dire épreuve et querelle. Parce que les Israélites n'avaient pas pris parti. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous ? » Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous, oui ou non ? Le deuxième épisode, c'est Massa. C'est dans Nombre 20, c'est bien plus tard. Et c'est la même chose qui se présente de nouveau. On recommence à regretter l'Égypte. Et puis l'eau vient à manquer de nouveau. Donc de nouveau révolte, contestation. Et Moïse doit parler cette fois au rocher et non le frapper. Bon, Moïse y s'emporte et donne libre cours à son exaspération, sa frustration et sa colère, et engendrée par l'attitude du peuple. Et au lieu de parler au rocher, il le frappe à plusieurs reprises. L'eau jaillit malgré tout. Et le peuple reçoit cette eau abondante. Mais Moïse portera les conséquences de sa désobéissance. Il ne pourra pas rentrer dans le pays promis. C'est facile aujourd'hui pour nous de pointer du doigt le peuple d'Israël et relever son manque de confiance et de désobéissance. Si on faisait partie de ce peuple, de ces nomades en fuite dans ce désert, et puis tout d'un coup l'eau vient manquer, je pense qu'on serait comme eux. On peut se passer de beaucoup de choses, mais l'eau, ça devient vraiment, vraiment crucial. C'est grave, sans eau. Combien de fois est-ce que j'ai pas râlé ou se pété contre l'ascenseur qui marche pas, contre les bouchons, contre un collègue de travail qui me casse les pieds, contre Dieu même, où ma prière n'est pas répondue, un passage dans le désert. Et souvent, je peux aussi dire comme ce peuple d'Israël, l'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous, au milieu de moi ? Nous allons lire la première partie de ce psaume, qui est totalement différent. Vous le verrez. Venez, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui. Chantons notre reconnaissance. Faisons-lui une ovation en musique, car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Alors aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Je laisse résonner un petit peu ce psaume dans votre cœur.
Venez, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance. Faisons-lui une ovation en musique. Car le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui domine tous les dieux. Il dispose des profondeurs de la terre et le sommet des montagnes est à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée. Entrez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit.
Le Seigneur est bon. Et c'est dommage, on est un peu ainsi qu'il faut d'abord qu'on se trouve dans une situation affreuse pour qu'on se rende compte combien il est bon. Et je vous invite à vous arrêter et puis à considérer combien il est bon dans nos difficultés et puis comme il est bon quand tout va bien. Et ce matin, on aimerait bien avec vous prendre le temps de respirer, prendre le temps de se dire que quand on est réuni au milieu de l'Église, quand on est réuni auprès du Seigneur, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est tellement fantastique de savoir, de connaître les promesses dans la Bible, de savoir que nous sommes réunis en son nom et puis que Il est là avec nous. Et puis, ouais, toutes ces tracasseries que nous racontait Roger, ça devient tellement petit parce que notre Dieu est tellement grand. Considérez juste autour de vous la couronne de l'Avent qui nous annonce la venue du Seigneur Jésus. Le ciel qui nous envoie son Fils unique. Si vous aviez un seul fils, vous l'enverriez à la boucherie? Non, à Noël, c'est ce que Dieu a fait. Il nous a envoyé son Fils unique, il nous a fait le plus grand cadeau. Il ne pouvait pas nous faire plus grand cadeau. Il aurait pu nous faire un nouveau jardin d'Éden, nous refaire les tapisseries à la maison, que sais-je. Tout ça, c'est des futilités. Il nous a offert ce qu'il avait de plus cher, il nous a offert son Fils unique. Noël, c'est ça. C'est Dieu qui nous envoie son Fils, et il sait pourquoi, et il sait ce qui va venir après. Considérez, à côté de la couronne de l'Avent, la table de la Sainte Cène qui est prête. Noël, c'est l'annonce de ce que Jésus va accomplir pour nous. Jésus va nous amener sur la terre quelque chose qui était totalement inconcevable. Jésus, parce qu'il est venu sur la terre, nous donne la force de vivre. Où est-ce que vous iriez puiser votre joie de vivre et votre énergie pour vivre? Où est-ce que vous iriez vous choisir un but si le Seigneur Jésus n'était pas descendu sur terre? Ce serait plein de vide. Considérez sur la chair, on a la Bible qui est posée. Dieu qui nous a laissé sa parole avec toutes ses promesses merveilleuses. Noël, avec la couronne de l'Avent, le sacrifice de Jésus avec la Sainte Cène, la parole de Dieu avec la Bible. Et puis si vous ouvrez les yeux et vous regardez autour de vous, il y a aussi toute son Église. Qu'est-ce que je ferais si vous n'étiez pas là? Qu'est-ce qu'on ferait sans être ensemble? Qu'est-ce qu'on ferait sans les uns les autres? Moi, ça me touche. Au plus profond de mon cœur, ça c'est des beaux cadeaux de Noël. Ça c'est le vrai cadeau de Noël. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que ta bonté est infinie. Je veux te dire merci parce que malgré toutes les épreuves, les tribulations que nous pouvons traverser dans nos vies, malgré tous ces moments où nous n'avons pas de réponse, Tu es présent. Merci parce que l'Avent nous annonce, nous rappelle, nous donne le temps de nous souvenir à quel point c'est incroyable que tu sois descendu parmi nous. À quel point c'est incroyable le ministère pour lequel tu es venu parmi les hommes, à quel point c'est incroyable que tu te sois fait homme toi-même. Mon Dieu, merci pour ta venue, merci pour ton sacrifice, merci pour ta parole, merci pour ton Église. Seigneur Jésus, en ton nom, cette période de l'Avent, j'aimerais bénir tous mes frères et sœurs qui sont ici dans cette Église. J'aimerais te dire merci pour eux. Merci de pouvoir cheminer ensemble. Merci parce que nous ne sommes pas ensemble par hasard, mais parce que tu l'as voulu. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Vous vous souvenez quand un jour vous avez senti la présence du Seigneur pour la première fois? Ce même Seigneur, il est avec nous ce matin. C'est le même, il ne change pas. J'aimerais qu'on passe un moment dans la prière pour dire au Seigneur combien il nous est précieux. Seigneur Jésus, tu es notre raison de vivre. Tu es la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Tu es notre raison d'aller de l'avant chaque jour. Tu es notre raison d'espérer parce que tu as tout changé. Mais Seigneur Jésus, je veux me souvenir de ce jour où je t'ai rencontré et je veux me souvenir que tu changes pas. Tu es toujours là. Tu es le même. Tu es merveilleux.
Nous allons avoir maintenant les lectures qui nous sont proposées pour ce culte. Et ensuite, trois d'entre nous, peut-être plus, vont partager ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont à cœur par rapport à ces deux textes. Est-ce que ça fait pour eux de lire ces textes et qu'est-ce que ça change dans leur vie? Le premier texte qui nous est proposé est le texte de Luc 1, versets 26 à 38.
Luc 1, versets 26 à 38, l'annonce de la naissance de Jésus. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle.
Le deuxième texte est dans Jean 1, versets 9 à 13.
C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Ce je commencerai par partager un petit peu ce que je ressens par rapport à cette annonce d'une grossesse à haut risque. Ensuite, Alexandre nous dira quelques petits mots, et ainsi ensuite Roger Souel. Au mois d'octobre passé, avec Mireille et mon épouse, on a eu l'occasion de visiter le Portugal. On a beaucoup apprécié ces deux semaines. Les gens sont très très gentils, allez-y, ils vous accueilleront à bras ouverts. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de cultures, beaucoup de monuments. J'étais frappé par le nombre de statues de Marie dans toutes ces églises. C'est impressionnant. Il y a encore une ferveur religieuse très très forte. Mais est-ce, en voyant ces statues, est-ce que c'est vraiment Marie ? Je me posais cette question, est-ce que c'est vraiment cela ? Est-ce que c'est vraiment une description de Marie ? Pour moi, ce qui me frappe en lisant ce texte, c'est que Marie est une très jeune fille, 15, 16, 18 ans. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont des filles de cet âge-là. Mais voilà que quelque chose lui arrive. Elle est fiancée dans la culture hébraïque de l'époque. Donc son fiancé connu, c'est Joseph. Il a aussi mentionné qu'elle ne connaît pas Joseph au niveau sexuellement. L'ange arrive là et puis se présente et fait cette salutation. Marie est troublée. Pourquoi est-ce que je mérite la grâce de Dieu? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais? Ensuite, l'ange lui explique ce qui va se passer et lui dit « Sois sans crainte » parce que des craintes, il y en a. Il y a quand même des conséquences sociales importante suite à une grossesse en étant fiancée dans cette culture. Sois sans crainte. La fécondation in vitro ou bien assistée, ça n'existait pas encore. Mais ça, c'était la fécondation assistée par le Saint-Esprit. Vous allez le raconter autour de vous à mes collègues, mais ils vont me rire au nez. Ça, il ne faut pas me la faire, ce n'est pas possible. Je pense que Marie l'a dit, mais comment ça peut se faire? Et l'ange lui dit, ben regarde, ça fait 6 mois déjà que ta vieille cousine stérile est enceinte. Donc il y a aussi quelque chose là de miraculeux qui s'est fait. Donc il y a quelque chose qui se trame, quelque chose qui se prépare. Peut-être que Marie connaissait déjà toutes ces prophéties. Je ne sais pas si elle en savait vraiment beaucoup ou pas. Marie réalise que rien n'est impossible à Dieu. Elle accepte de se mettre au service du Seigneur. Elle répond, mais qu'il me soit fait selon ta parole. D'un autre côté aussi, dans le texte, je crois que c'est dans Matthieu, l'ange, il a aussi du boulot à faire auprès de Joseph pour l'avertir, parce qu'il peut se sentir trahi. Il avait le choix de la rejeter, et les conséquences étaient la lapidation pour Marie. Donc il y avait des hauts risques. Marie n'est pas épargnée par les souffrances non plus, malgré la grâce qui lui est faite. Et rapidement, alors qu'elle est à terme, ils doivent se déplacer à Bethléem pour ce fameux recensement. Donc c'est un voyage pas très facile, à dos d'âne ou à pied. Et bien sûr, ça provoque l'accouchement. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles ou 6 étoiles, mais c'est une écurie. J'ai eu travaillé, moi, dans les écuries, chez mon grand-père, ou chez mon beau-père, et je sais un petit peu ce que c'est. 33 ans plus tard, c'est aussi la douleur de voir son fils lynché par une foule. C'est une humiliation totale. Puis ensuite, après la résurrection, Jésus disparaît, enlevé au ciel, n'est plus présent. La prise de risque, l'acte de foi, ce n'est pas une garantie que le voyage sera agréable et facile, que l'on sera épargné de souffrances ou de désagréments. On peut se dire, ah, Seigneur, puisque je te fais confiance, puisque j'accepte de te faire confiance, tu peux au moins faire que ça aille, m'épargner ceci ou cela. Mais Dieu vient nous visiter peut-être au cœur de notre nuit, de notre maladie, de notre deuil, de nos soucis, ou bien d'une situation sans issue, ou bien même quand tout va bien. Les anges ont annoncé une bonne nouvelle aux bergers. C'est la véritable lumière du monde qui vient. Elle est venue, elle est là, elle est présente. Et puis elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Elle éclaire tout homme. C'est aussi comme ces petites fenêtres que Roger avait ouvertes ici sur ce panneau, il y a 2 semaines, lors du culte, où c'est tout noir autour, mais derrière, il y a ce monde de lumière qui est là, ce royaume de Dieu, puis ces petites fenêtres qui s'ouvrent. Ça, c'est vous, ça, c'est moi, ça, c'est toi. On est là pour ouvrir ces fenêtres et faire que la lumière brille. Marie a lâché prise, elle a accepté de faire confiance, elle a osé. Quel exemple pour moi. Ces derniers jours, je suis très interpellé puis mis en défi. Il y a une personne qui nous est très proche, à Mireille et à moi. Ça fait pratiquement 40 ans qu'on la connaît. Et puis qu'on prie régulièrement pour elle, pour qu'elle puisse venir trouver cette lumière, venir trouver la paix. Elle la cherche de tout son cœur, dans le New Age, dans la spiritualité actuelle, dans les énergies, dans l'ésotérisme. Ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Ça fait plus que reculer, à mon avis. Il n'y a pas de paix. Récemment, son fils a été aussi transformé par l'action du Saint-Esprit, par l'action de Dieu, est venu et est très engagé dans la foi. Et ces jours passés, de retour de l'étranger, il est là pour lui parler, pour essayer de la tagnasser un peu, hein, quand même. Et puis l'autre soir, jeudi, elle téléphone et puis elle me dit, mais c'est comme ça simple. Mon fils qui me faut dire, il dit qu'il faut que je lâche ce sac que j'ai dans mon dos, que je porte, simplement le lâcher. Ah, il faut que je contrôle ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis, j'ai répondu que oui, mais quel peu de foi j'avais. Ensuite, je me suis dit, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis, si tout d'un coup, elle le demande, puis rien se passe, et c'est le silence. Et je me rends compte que ma foi est très petite. Oh, Seigneur, donne-moi la foi d'y croire. Ça fait 40 ans qu'on prie pour ça. Que je puisse avoir la foi, cette foi que Marie a eue, de faire confiance. Et puis c'est ça le message de Noël, c'est du passage des ténèbres à la lumière, de venir à la paix. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Alexandre va aussi nous dire quelque chose. Tu veux venir là ?
À la lecture de ce passage dans le premier chapitre de Luc, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'était la confiance. Tu en as déjà parlé d'ailleurs. La confiance de Marie qui est sans borne, on pourrait dire. Elle accepte sans rouspéter ou sans contester, alors qu'elle savait pertinemment les risques qu'elle prenait. C'est-à-dire, on a déjà parlé de la lapidation qu'elle risquait, mais aussi causer le tort à son futur mari, Joseph. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on s'imagine ce que ça représente, mais c'est une honte. Aujourd'hui, il y a 25% d'enfants en France qui sont nés hors de mariage. Mais à l'époque, un enfant né hors de mariage, c'était inconcevable. Donc, je pense qu'il faut se mettre aussi un peu dans la peau de l'époque. Marie qui était une honte en même temps pour son mari. Mais c'est pas une acceptation toute bête comme on pourrait dire, bon, ben, c'était une femme soumise. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus. C'est fini, ça. Non, je ne pense pas parce que si on va un petit peu plus loin, dans ce chapitre, on lit le cantique de Marie, qui a servi d'ailleurs d'inspiration à une multitude de fameux compositeurs et poètes, le Magnificat. Ce cantique nous montre bien combien le rôle de Marie était actif, proactif dans cette histoire, que c'était pas une acceptation toute bête. Et puis, deuxième chose qui est intéressante, c'est que je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, il faut encore prendre tout le contexte. Si vous lisez l'histoire qui précède l'annonce à Marie, c'est l'histoire de Zacharie. Zacharie, qu'est-ce qui lui arrive? À peu près dans la même circonstance, lui aussi, il dit, mais comment ça se fait, comme Marie d'ailleurs, comment ça peut se faire? Mais l'ange lui dit, tu seras puni parce que tu n'as pas cru que ta femme pouvait tomber enceinte. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Marie, elle tergiverse aussi à quelque part. Elle pose en tout cas la question, comment ça peut se faire, comme Zacharie. Et puis, elle n'est pas punie pour ça. Et je me suis dit, tiens, ça c'est, je pense que ça doit être du fait que Zacharie, qui était beaucoup plus âgé que Marie, donc il avait beaucoup plus d'expérience et aussi de connaissance des Écritures, Zacharie, il a dû connaître l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, c'était pas quelque chose, il n'était pas le premier au monde dans cette situation, ni sa femme. Donc, Zacharie aurait pu, en s'appuyant sur les Écritures, croire sans tergiverser. Alors que pour Marie, c'était quelque chose qui était sans précédent et bien sûr que je doute que ça puisse se reproduire encore dans l'histoire. Donc c'est ce que j'avais à cœur, ce qui m'a dit le texte d'aujourd'hui. Merci.
Quel accent mettre sur Noël, cette période? Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. On a entendu dans le psaume 95, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu a un accent? Ma mère était allemande. Elle avait un fort accent quand elle parlait en anglais, paraît-il. Mais moi, j'entendais rien parce que j'étais tellement habitué depuis toujours à l'entendre parler. Je croyais qu'elle parlait comme tout le monde. Ça peut vous surprendre, mais mes enfants n'entendent pas que j'ai un accent quand je parle français. Merci, Roger. Parce que, à nouveau, ma voix est tellement familière qu'il ne l'entend pas. Je pensais à Noël. C'est une histoire tellement familière. Est-ce qu'on entend ce que Dieu nous dit concernant Noël? Ou est-ce que c'est une histoire qu'on connaît tellement familière que ses lectures, on connaît et puis on n'entend pas sa voix? Quel est l'accent de l'histoire de Noël qui me touche dans ces lectures? C'est dans le texte en Jean, nous avons entendu, le monde a été fait par elle. Jésus, la lumière, la parole. Il a créé le monde. Dans le psaume 95, on avait entendu la mer et tout ce qu'elle contient. La terre, c'est lui qui l'a fait. Et l'infiniment grand Dieu, qui est au-dessus de tout, il est venu dans le sein de Marie, tellement petit, pour qu'on puisse commencer à entendre l'accent de Dieu qui veut nous parler. Donc ce qui me touche, c'est le fait que Dieu lui-même a choisi de visiter notre terre, notre humanité de cette manière. Quelle merveille! La manière qu'il a fait et les conséquences que Xavier a évoquées qu'il est venu. Il est venu pour que moi je puisse sortir de toutes ces ténèbres qui étaient dans ma vie. Que je puisse vivre dans la lumière, pas parce que j'étais tout d'un coup parfait, mais que la lumière est venue pour nous parler du pardon de Dieu, que j'étais pardonné, libre pour revivre. Ça me parle du premier Noël que j'ai vécu, où que c'était pas les cadeaux que j'attendais, qu'on oublie pas longtemps après, mais que le cadeau que Dieu avait donné son fils premier vrai Noël à 30 ans. Quel accent a Noël pour vous cette année? Est-ce que le récit est trop familier? Ça, vous l'entendez plus? Ça passe inaperçu? Ou est-ce qu'il y a des choses à entendre tout à nouveau, à découvrir, que cette lumière chasse encore aujourd'hui de ma vie tout ce qui est encore sombre? Que c'est-il rappelé, cette lumière se dresse à l'horizon et en oriente sa vie en fonction de cette lumière parce qu'on a une destination qui nous attend. Quel accent de Dieu vous aimeriez entendre ce Noël? L'humilité de Dieu qui est venu non pas dans le Intercontinental à Genève, mais plutôt Formule 1 à Ferney. C'était dans ce style-là. Mais que c'était Dieu, le Créateur, qui est venu Emmanuel, Dieu avec nous. Alors que le Seigneur nous aide à entrer dans cette joie, cette adoration qui se passait et qui se passe encore aujourd'hui en pensant à Noël dans le monde invisible. Il y a un choral qui célèbre la venue de Dieu. Dieu était en Christ réconciliant le monde à lui-même. Alors joignons-nous à toutes ces voix pour célébrer la venue de notre Créateur.